avant de chanter ma vie, de faire des harangues dans ma gueule de bois. J'ai tourné cette fois ma langue. J'suis issu de...
Les pratiques agricoles ont beaucoup évolué à travers les siècles, transformant nos paysages. Depuis les années 90, une nouvelle pratique liée au tourisme se développe en milieu rural dans le but de valoriser la ferme et son territoire. Aujourd'hui, elle s'étend aussi aux espaces périurbains. Quelles formes peuvent prendre ces diversifications du métier d'agriculteur? Nous nous sommes intéressés au cas de l'œnotourisme et du domaine de Moncy. Nous avons donc rencontré Dominique Eugène, propriétaire du domaine.
Et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches. En guise
ça veut dire pause
non, c'est ça.
Donc là, on enregistre là. Donc nous, on a repris ce domaine de Moncy il y a 10 ans, maintenant. Donc en 2007. Donc à l'époque, le domaine faisait 16 hectares. Et était en agriculture conventionnelle. Donc en 2008, on a décidé de le convertir en agriculture biologique.
C'est mois de juin que qu'êtes-vous en train de faire, principalement dans les villes?
Je vous laisse.
Là, c'est vraiment de la colle.
Comment?
La collage et le bourgeonnage.
C'est les bourgeonnages?
Là, c'est la collage.
La collage, donc en quoi ça consiste?
Je vais répondre.
Allez-y, parlez.
Bah oui.
Non,
mais non, je conserve
vous le faire sinon, si ça vous dérange.
Non, ça vous dérange pas, mais bon.
Et bien, ça consiste à repasser les branches dans les fils de fer pour que la vigne elle plus droite.
Ouais.
Pour éviter qu'elle soit par terre. Comme ça, ça permet que ce soit, quand on passe les traitements et tout, d'avoir les traitements qui va bien sur les feuilles et sur les raisins, et puis d'avoir les raisins qui sont tous à la même hauteur, à peu près.
D'accord.
Comme ça, quand on viendra les vendanger,
on
les
sent pas
à la haute.
Ils sont bonne journée, monsieur.
Bonne journée.
Ils sont tous à la même hauteur, et puis ça permet d'avoir quelque chose de plus homogène.
Ouais.
Puis la vigne, c'est une liane. Et, si on fait rien, elle rampe par terre, elle rampe.
Mmh.
Et donc elle va pousser de 3, 4, 5, 6, 8, 10 mètres dans l'année. Et quand elle pousse comme ça, si elle pousse, à la fin, les raisins, il n'y aura pas de sucre. Alors que là, avec le tracteur, il est en train de couper en haut. Et le fait de faire ça, en fait, ça permet à la vigne de faire descendre un peu de modifier les flux de sève, et la sève, elle va remplir les raisins et les remplir de sucre.
D'accord. Donc
à cette saison-là, de faire ça, là, en fin juin, c'est vraiment le moment idéal parce que les raisins, ils sont tout formés là.
Oui. On voit déjà les jeunes grappes.
On voit déjà les jeunes grappes. Et donc, maintenant, on est au stade pratiquement où elles. Il n'y a plus qu'à attendre que ça mûrisse. Et pour ça, il faut vraiment que la vigne, elle soit. Il y a une hauteur de feuillage soit, enfin, pas excessive et qu'elle soit de la bonne taille.
D'accord.
Et donc c'est ce qu'il fait avec le tracteur.
On a trois AOC, effectivement, c'est intégralement en AOC, l'appellation Cheverny,
oui.
Donc dans les trois couleurs, hein, le blanc, le rosé et le rouge, des vins d'assemblage. La deuxième appellation, c'est Courcheverny, donc là, ce n'est uniquement du blanc et donc un monocépage, le Romorantin,
oui.
Très spécifique à cette région. Et la troisième appellation, c'est Crémant de Loire.
D'accord, donc c'est original, vous couvrez trois appellations totales,
oui, exactement.
Sur le domaine.
Voilà, donc ce qui va faire ici notre particularité, c'est donc, oui, on est en agriculture biologique, et puis même, on est maintenant en agriculture biodynamique, certifiée par Déméter.
Oui, j'ai vu le logo à l'entrée.
Ouais. Donc ça, on y est depuis 4-5 ans maintenant. Et en même temps, on a décidé, en termes de vinification, d'être le plus naturel possible. C'est-à-dire que nos vinifications sont naturelles. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, on va pas acheter de levure. Par exemple, on ne levure pas nos vins. On utilise les levures qu'on appelle indigènes, qui ont à la surface de la peau du raisin. Après, on a éprouvé le besoin, puisque les gens aussi étaient intéressés par cela, à mettre à leur disposition des hébergements et de démarrer également l'activité de nos tourismes. Donc on a mis un premier hébergement qu'on a conçu nous-mêmes, hein, juste dans les vignes, ici, dans les Sauvignons.
Alors là, nous montons actuellement sur le toit d'un des deux hébergements. Ce toit, nous pouvons admirer une vue à 360 degrés sur l'ensemble du domaine et ses vignes.
Et donc en proposant à la fois l'hébergement et la visite dégustation qui allait avec.
So here you have a grape of,
donc ici vous avez une grappe de Pinot Noir. Ce que je disais, c'est que on est chanceux parce qu'ici on va pouvoir récolter, ce qui n'est pas le cas sur la parcelle là-bas, qui a été complètement gelée en avril. Cette partie n'a pas été gelée car elle a été protégée car ces éoliennes. Le principe suivi, c'est qu'à 15 mètres du sol, la température est 2 degrés supérieure, donc de l'air chaud. Et donc, on a des gros moteurs qui font environ 250 chevaux. Donc des moteurs, très puissants. C'est un peu comme un hélicoptère. Et les deux couches d'air vont être brassées, ce qui va réchauffer l'air au sol de 2 degrés. Donc on va être en mesure de protéger notre récolte.
On a également mis en place dès 2008 un jeu dans les vignes, les mystères de la grappe d'or. Petit à petit aussi, on a développé d'autres activités. Donc je vous ai parlé des hébergements, je vous ai parlé du parcours dans les vignes. On a aussi une vigne conservatoire ici autour du domaine, avec les cépages de l'appellation. Et ce que l'on a fait également, parce que ici vous voyez l'accueil, donc on peut accueillir jusqu'à une vingtaine de personnes, mais au-delà c'était compliqué. Et donc on a construit une salle de réception juste à côté.
Vous avez un très 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 ambitieux projet avec plusieurs...
On commence par un tour des vignes, donc on leur explique ce qu'est l'agriculture biologique, biodynamique, nos terroirs, nos cépages. Et puis après, donc on fait un tour du chai, on explique comment on vinifie un vin blanc, un vin rouge, les différents types de fermentation, qu'est-ce qu'une vinification naturelle. Ensuite, on passe dans le cellier, on leur explique les vins de l'appellation. Et puis, on passe aussi dans l'atelier de fabrication des confitures.
Dans un petit plat à papier qui ressemble des arbres, t'as pas le pain, t'es la coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
On va mettre le sucre. Mais ça, c'est la personne veut faire ça, quoi. C'est tellement difficile. Et c'est pour ça qu'on a, le monopole, mais il faut déjà la machine qui va bien. Et donc, on va le faire fondre.
Dans ces grandes queues.
Exactement. Et puis une fois que c'est fondu, donc on va le broyer, on va tamiser. En fait, on voit que c'est une opération assez périlleuse, quoi. On a très vite fait de se brûler. Ça reste très manuel, hein. Et donc l'opération d'après, donc là on récupère la pulpe de marron. Et donc l'opération d'après, c'est on la remonte en cuve et on additionne le sucre dans des proportions qui nous permettent d'avoir l'appellation crème de marron. Et donc pour vraiment avoir l'œil, ça se fait à l'œil, ça se fait... Alors oui, on a des manomètres pour les pressions, on a le thermomètre du confiseur, etc. Mais rien ne vaut prendre le marron et puis voir s'il s'écrase bien.
Ouais.
Ça reste très artisanal. Hein. C'est ce qui fait le charme.
Là, je l'ai vidée, du coup, je vais la refermer, je vais la rincer. Et puis celle-ci, elle arrive prochainement.
Et après, pour remonter tous les
ouais. Seaux. Là, je vais remonter tous les seaux et le reverser dedans.
Tu as besoin d'aide ?
Non.
Ah, c'est trop bon.
Ça donne envie.
Et maintenant, la mise en pot de la crème de marron.
Vous avez réussi à entrer dans un programme LEADER.
Oui.
Comment déjà avez-vous pris connaissance de ce programme-là ? Et quelles ont été les premières motivations ?
En fait, ça se fait un petit peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous dites, tiens, j'ai un projet, par exemple, je vais mettre un hébergement complètement insolite, ou j'ai un projet, je veux faire une salle de réception, ou j'ai un projet, je veux développer un atelier de production de confiture. Donc, vous commencez à faire vos bilans, ce qu'on appelle le business plan.
Ouais. Hein?
Et puis à un moment donné, vous vous posez la question des subventions. Mmh. Parce que derrière, il y a de l'emploi que vous créez, parce que vous animez le territoire. Et là, bah, vous allez, ça se fait ensuite de fil en aiguille, hein, vous allez parler aux interlocuteurs, hein, que ce soit l'agglo, que ce soit le pays des châteaux, que ce soit la mairie, etc., etc. Et c'est eux qui vous orientent ensuite sur les dispositifs d'accord, d'aide que vous pouvez actionner. Et puis après, bah, ils vous donnent des documents à remplir. Vous passez en commission.
Pour vous situer dans le programme LEADER auquel vous avez participé, ça incluait quoi ? C'était uniquement sur la partie touristique ou ça incluait aussi la démarche des confitures ?
Alors, je me souviens plus précisément, hein, mais LEADER, oui, nous a aidé sur notamment la partie touristique.
Et puis, il y a ce projet-là sur lequel on les a accompagnés sur le LEADER.
Xavier Laurière, chargé du programme LEADER à l'Aglopolis.
Sur l'hébergement. Et donc en fait, l'idée, c'était de tester un prototype. Et c'est à ce titre-là qu'on trouvait que LEADER, ça pouvait vraiment être pertinent, puisque c'est de l'expérimentation, du coup, là. Tester un prototype dessiné justement par Dominique Eugène. Au-delà de ça, nous, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir avoir une exploitation qui joue vraiment le jeu de la diversification en allant quand même assez loin derrière avec les projets. Ils avaient une capacité aussi d'investissement qui le permettait. Et on l'a vraiment vu comme une locomotive finalement pour toute l'appellation après derrière.
On est ce qu'on appelle les néo-vignerons. Hein. Donc, nos parents n'étaient pas dans le oui. milieu. C'est par passion. Hein.
Ils sont arrivés avec un regard complètement neuf.
Ouais.
Donc ils n'avaient pas le clivage que peuvent avoir les agriculteurs qui reprennent la ferme de leurs parents ou qui... eux, c'était un peu le coup de pied dans la fourmilière en fait. Après, je pense qu'ils avaient aussi une ouverture vers la diversification que beaucoup d'autres vignerons n'avaient pas du tout sur le territoire. Et peut-être que ça a un peu chamboulé les choses, de dire, tiens, ils font ça, tiens, ok. C'est plus vraiment de la culture de la vigne, mais bon, visiblement, ça leur apporte de l'argent. Faut peut-être que je m'y mette aussi, quoi. Ça a un peu bousculé les choses. Mais voilà, ça fait un peu d'un petit bol d'air frais. Et puis, alors oui, il y a d'autres vignerons depuis qui se mettent un peu plus sur ça, quoi. On a un compte d'autres vignerons sur de la caillochée, sur même certains qui pensent à proposer des activités aussi sensorielles autour du vin. Il y a beaucoup de choses à faire autour des cinq sens sur le vin. Donc, le syndicat AOC Cheverny-Courcheverny a eu un très gros projet, c'était la Maison des Vins. C'est que du coup, ça a été vraiment le premier projet qui les a fédérés et qui a été une réussite. Où il y a plusieurs lieux, dont des fermes sur lesquelles ils font des événements culturels. Et puis Va jouer dehors, c'est autour de la musique classique, dans des lieux insolites. Et il y a plusieurs fermes qui ont ça. Donc notamment, pour donner un exemple, on a eu la ferme du Petit Ville Sablon à Chaille. Je ne sais pas si vous connaissez, elle fait des fraises, elle est cherchée en bio à cueillir à la ferme. Margot Boitard, à Chaille, ouais. Et d'ailleurs, elle-même commence à aller un peu plus sur la diversification parce qu'elle vient de faire, elle a un gîte dans une vieille tour. Elle voulait faire un gîte insolite. Et puis une autre ferme aussi, c'est la Guilbardière à Montoux-sur-Bièvre. Ils font du lait en bio. On les a subventionnés sur la mise en. Alors c'est, et souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent aux écoles, lors des TAP ou enfin, même pour les centres aérés par exemple, de venir en bus à la ferme de la Guilbardière pour leur montrer comment on fait le lait, comment on fait la faisselle, comment toucher les vaches et tout ça. Et en même temps, ils ont une salle qu'on a subventionnée pour faire de l'accueil à la ferme. Ils font partie aussi des projets parcours LPO, et c'était dans ce projet-là aussi. Ça reboucle la boucle. Voilà. Didier Nabou,
je pense.
La LPO. Donc, président du groupe. Chef du groupe, c'est pas une association, donc c'est juste un groupe informel. Chef du groupe LPO, il s'y connaît pas mal sur les oiseaux. Son credo à lui, c'est de dire qu'il faut réconcilier les urbains et les ruraux. Je ne rentre pas trop parce que de toute façon, il va vous faire tout son speech. Réconcilier les urbains et les ruraux par des projets qui montrent que l'agriculture sert aussi la biodiversité.
Donc, je me présente, je suis Didier Nabon, le délégué fondateur du groupe LPO 41, que j'ai créé le 26 juin 2010. Alors, bientôt un anniversaire à fêter, là. L'objectif majeur de ce projet, c'est quand même parti d'un objectif. Hein. C'était de retisser des liens entre les citadins et les ruraux. D'après mon vécu, je suis monsieur maintenant, et donc je m'aperçois, je suis dans plusieurs associations, que les gens se parlent moins, il n'y a pas de contact entre les citadins et les ruraux, très peu, ou alors c'est pratiquement contraint ou forcé, ou alors lorsqu'ils vont faire des achats justement dans les fermes. Donc je me suis dit qu'on pouvait avoir un rôle, la LPO, sur cet objectif, à partir de la valorisation des produits de terroir. Les produits de terroir, c'est les produits d'appellation, de certification de conformité, les labels, etc. Et les produits locaux. Et ça peut être le point d'ancrage, d'ouverture, la porte qui s'ouvre. Parce que c'est le développement des circuits courts aussi. L'objectif, hein, c'est de maintenir cette notion de d'économie, de transport, de non-pollution, de produits frais. Donc développer le bio et le raisonné, la production bio, parce que là on préserve déjà avec la façon de travailler, les produits utilisés, qui sont souvent les produits naturels, on préserve l'environnement. Et l'idée, c'est d'emmener un maximum de producteurs vers ce modèle bio ou raisonné. Parce que le conventionnel aujourd'hui, la production agricole conventionnelle, ouais, elle est quelque chose d'acceptable dans le milieu rural et en termes d'environnement, et en termes de produits et en termes d'agrotourisme, on va bientôt arriver, parce que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Hein. Donc l'idée, c'est que le paysan puisse communiquer également sur son environnement, sur ses façons de travail. On rencontre, voilà, 6 ans à peu près, avec un vigneron. J'étais client, il passait au bio. Puis on a fait un jour un tour dans les vignes, et puis on a vu des oiseaux. Il m'a dit, toi, là, Didier, ça c'est le lino, c'était la linotte mélodieuse. Il connaissait les oiseaux de façon formidable.
Ah, je crois que nous avons une fouque sauvage qui chante au loin.
Il avait son vocabulaire, mais il les connaissait quand même. Je me dis, tiens, il y a un vigneron qui connaît ces oiseaux. Ça peut être intéressant. Alors je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que tu connais d'autres agriculteurs, d'autres vignerons qui seraient intéressés pour qu'on fasse cet inventaire des oiseaux dans les vignobles. 2 mois après, on était dans une petite salle de réunion à Montoux-sur-Cher, avec 5 vignerons. J'ai exposé un peu mon idée de partir sur des inventaires d'oiseaux, les faire connaître et en mettant en place une signalétique, puisque c'est des gens qui vont à la ferme, les vignerons, beaucoup, hein, majorité, mettre une signalétique qui donc permettra aux clients, aux touristes, d'aller faire un tour dans les vignes et de voir des panneaux. J'avais pensé à des panneaux, je ne pensais pas du tout à ce qu'on est arrivé là aujourd'hui. Une signalétique qui permettait un petit panneau par oiseau, quelque chose de propre, nickel, quoi. Hein. Financé par la région, a dit, mais nous, ça nous intéresse. Franchement, c'est un projet magnifique. Hein. Mais il n'avait pas parlé de projet touristique. C'est marrant. C'est quand je suis allé voir M. Laurière, que vous connaissez, hein, au Pays des Châteaux, il m'a dit, vous savez, M. Nabon, votre projet, il est super, mais il ne faut pas qu'il reste sur la biodiversité et l'environnement, il faut qu'il soit sur le tourisme, l'agrotourisme. Hein. Et on sait maintenant que le leader va nous donner 27% du projet, financement. Et la région, 70%. D'accord. Ce qui est énorme. On a bien fait de commencer par là, je veux vous dire.
Et les 3% restants ?
Les paysans.
D'accord.
Donc on a fait une super brochure. Mais cette brochure, il y en a 10 par exploitation, au sein desquelles il y a donc une quarantaine de fiches oiseaux, qu'on a fait nous tous, hein, le bénévolat. Et puis une dizaine de fiches sur la botanique, pour enrichir un petit peu la chose. Donc ces documents sont remis aux visiteurs au départ de la visite, un parcours fléché, avec les bornes, avec des flèches directionnelles. Et donc les gens doivent les rendre quand ils ont fait le parcours. Alors dans les partenaires, donc, il y a la Chambre d'agriculture, il y a Smart 360, c'est l'informaticien, la Société d'histoire naturelle, le CDSAE d'Herbeau, c'est un centre social. Puis bien, l'école du paysage qui a participé bien aussi sur l'aspect mise en valeur des exploitations. Là, c'est une dizaine d'exploitants, ils ont fait un boulot remarquable.
C'est avec les deuxièmes années que vous avez fait ça.
Un beau boulot. Ça, c'est bien. Vous êtes des gens intéressants. Moi, je dis que les gens de cette maison ils sont intéressants parce que. Et du modernisme, il y a une autre vue que celle que nous avons, nous, en tant que technicien. Moi, j'étais technicien d'élevage ovin et caprin à la Chambre d'agriculture. Moi, je n'ai pas la même approche, ce n'est pas mon métier, quoi. Puis les paysans, ils ne voient pas toujours ce qu'on peut faire de leur site. Hein. Il y a une très belle proposition. Oui, ils ont bien bossé. Oui.
Avant de chanter ma vie de faire des harangues dans ma gueule de bois. J'ai tourné cette fois ma langue, je suis issu de gens qui n'étaient pas...
Que la vigne ici, je pense qu'il y a quelques années qu'on aurait arrêté pour des raisons économiques. Donc heureusement on s'est diversifié à la fois dans le tourisme et puis sur les confitures biologiques.
Et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches en... guise de sang, aux noblesses sans pareille. Il coule en mon cœur la chaude liqueur de la treille.